RBA FM vous propose l'émission qui donne la parole aux associations du territoire, présentée par Raphaël.
Vive les associations, vive leurs actions, leur énergie, vive leurs salariés, vive leurs bénévoles. Nous parlons d'elles, nous parlons d'eux, dans Asso & Co. Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Aujourd'hui, dans le studio Auto d'Asso & Co, je suis avec Jérôme Gaillard, président de l'association de sauvegarde du lac de la Crégu à Trémouille. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Alors, ce lac de la Crégu à Trémouille, c'est une surface de 36 hectares.
C'est le plus grand lac glaciaire de tout le Massif central.
Voilà, il a été formé par la fonte des glaciers il y a 13 000 ans, c'est bien ça ?
Voilà, grosso modo, on avait 200 mètres de glace sur notre région de l'Artense qui a fondu aux alentours de 13 000 ans en arrière et a laissé dans les cuvettes qui avaient été rognées par le glacier une magnifique pièce d'eau.
Alors, cette magnifique pièce d'eau précieuse et magnifique, elle est abîmée depuis 50 ans. Elle subit les assauts de la société EDF et risque l'envasement. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit vraiment ?
Oh, c'est très simple. Donc le lac est apparu il y a 13 000 ans. T'as rappelé la superficie, des choses comme ça. Il était sa principale richesse était le fait qu'il ait une eau pratiquement pure, translucide, du fait qu'il n'y a pas de rivière qui amène de l'eau. Il y a un bassin versant qui est tout petit. Donc il est resté un peu comme un écrin. Il se transformait pas en tourbière comme les nombreux autres lacs de la région. Sa contenance est d'environ à peu près 3 millions de mètres cubes, donc ce qui n'est pas négligeable. Dans les années 60, la France avait besoin d'électricité, Bast, EDF est arrivé, et il s'est créé ce complexe hydroélectrique de la Haute-Tarentaine, et dans lequel le lac a été, on va dire, entre guillemets, privatisé par la société EDF, qui n'avait malheureusement pas le droit légal d'y passer dedans, mais qui sont passés en force dedans. Et depuis 50 ans, ce lac magnifique et merveilleux reçoit plusieurs millions de mètres cubes d'eau venue du massif du Sancy, par l'intermédiaire de rivières qui ont été dérivées par la société EDF, et cet apport d'eau dégradé par un apport d'eau, mais pas seulement, la boue, les sédiments, tout ce qui a été arraché à la montagne par les pluies, est venu mourir dans ce lac anciennement translucide, aujourd'hui effectivement pas mal envasé, puisqu'on estime à plus de 30 000 tonnes de boue quantifiée à l'état sec, ce que le lac stocke actuellement. Et ça va en empirant.
Et alors, pour que le lac retrouve son intégrité, pour que la biodiversité revienne si elle avait disparu, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les enlever, ces boues ?
Il n'y a pas réellement de solution. Nous, l'association, nous demandons que ce lac qui est un bien privé, c'est un lac qui appartient aux sectionnaires, donc aux habitants des 5 hameaux qui sont proches de ces berges. Il a été donné aux habitants à l'époque de la Révolution. Pour le sauver, comme tu dis, pour le restaurer, le sauver, ça va être très difficile, mais au moins le restaurer, il faut d'abord et avant tout chose, c'est de faire arrêter donc le déversement de ces eaux chargées de sédiments. Et nous, on pense, mais on a peut-être tort, que l'idéal étant de le curer, c'est-à-dire de le vider totalement, de le purger de ces 30 000 tonnes de boue, enlever tout ce qui n'a rien à faire dans un lac glaciaire, c'est-à-dire qu'il est maintenant peuplé d'anodontes, des grosses moules lacus qui vivent dans la vase. Il faut enlever les poissons chats, les perches soleil, tous ces poissons qui n'ont rien à voir avec une autre première catégorie, c'était une eau close avec à l'époque des ombles chevaliers détruites. Donc enlever tout ce qui n'a rien à faire dans la glacière et effectivement essayer de le restaurer en lui réapportant, les réimplantant aussi bien donc ces populations de poissons, mais pas que, c'est la faune, la flore, tout ce qui faisait l'équilibre parfait de ce lac.
L'association de sauvegarde du lac de la Crégu, qu'est-ce qu'elle souhaite en réalité ? Qu'est-ce qu'elle demande ? Que EDF procède au curage ?
Alors oui, que la société procède au curage, sauf qu'on sait que la société EDF n'est qu'un locataire de l'État. Donc actuellement, nous sommes en procédure au tribunal administratif contre l'inaction de l'État puisque c'est l'État qui doit demander à son locataire EDF d'arrêter cette pollution qui est inadmissible. Donc on n'attend pas grand-chose de EDF, on attend plus de l'État, que l'État impose à son locataire EDF l'arrêt de cette pollution, concrètement l'arrêt des déversements et la restauration du lac.
Donc, tranquillement, vous attaquez... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Tranquillement, vous attaquez l'État.
Alors, actuellement, après avoir essayé de concilier deux fois avec les dirigeants d'EDF, bon, pour rien, on a, sur les conseils de Corinne Lepage, donc l'ancienne ministre de l'Environnement, attaqué, effectivement, l'inaction de l'État devant le tribunal administratif. On a attaqué pour ça là, les trois préfets concernés, qui sont ceux du Puy-de-Dôme, de la Corrèze et du Cantal, et on attend une audience, qu'on espère favorable, cet automne, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Alors, en parallèle de l'action que l'association mène avec Maître Corinne Lepage, donc au tribunal administratif, pour faire entendre raison à l'État, on vient d'apprendre ce début d'année que l'État, propriétaire de tous les terrains, mais pas du lac de la Crégue, va céder pour 70 ans, sous un nouveau régime qui était avant celui des concessions, maintenant on va passer de l'autorisation, la gestion des grands barrages aux exploitants actuels, c'est-à-dire dans la région, nous c'est EDF, mais sur la Rhône, c'est la Compagnie Nationale du Rhône, ou la CHEM. Ce changement de régime fait suite à une guerre commerciale entre l'Union européenne et la France. Donc il fallait que la France trouve une porte de sortie. Elle l'a trouvée en laissant donc à EDF la possibilité d'exploiter pour 70 ans ces grands barrages. Pour nous, c'est l'occasion de voir arriver un nouveau cahier des charges, puisqu'il y a un changement de régime, donc ça s'accompagne d'un cahier des charges, une partie environnementale importante, et dans cette partie environnementale, on souhaite que l'État et EDF inscrivent noir sur blanc, justement, l'arrêt des déversements et le contournement du lac.
Mais donc la lutte de l'association de sauvegarde du lac de la Crégue est vraiment... judiciaire, administrative, c'est... Voilà, comment dire, vous faites pas des barricades, vous vous attachez pas aux arbres.
Alors on a... Momentanément, il faut jamais dire jamais, on est resté toujours dans l'écoute, on est à disposition de l'État, de EDF depuis... L'association a 34 ans. Donc pendant 34 ans, on a gardé un dialogue, une porte ouverte avec l'État et EDF, en espérant un jour qu'ils prennent conscience qu'on essaye de défendre d'abord un bien privé, un bien qui appartient actuellement à 27 copropriétaires, dans lequel l'État et EDF n'ont jamais eu le droit d'y passer dedans, surtout EDF. Et la deuxième chose, c'est que c'est le plus grand lac glaciaire de tout le Massif central. Donc l'association a été, il y a quelques années en arrière, soutenue par des grands noms de la politique. On avait M. Giscard d'Estaing, on avait M. Charras, on avait le ministre Alain Marleix qui ont apporté leur soutien à l'association et demandé à ce que l'État fasse le nécessaire pour mettre fin à cette pollution. Tout ça était sous-entendu de ce changement de régime de concession à autorisation qu'on attend depuis maintenant l'année 2012. C'est en train de se mettre en place, c'est pas à nous de faire effectivement, comme tu disais, des barricades, de faire une zone à défendre ou de... Non, on est pas très nombreux déjà, donc ça limite les possibilités. On tient pas à ce que ce soit un combat qui soit porté, on va dire, sur la place publique avec tous les... Bon, c'est pas notre ambition de foutre le bordel, comme on pourrait dire gentiment. On va essayer, par les voies légales, de faire appliquer la loi, ce qui est un minimum.
C'est un minimum et c'est un gros travail.
C'est un combat de tous les jours, c'est un combat où il faut s'accrocher parce qu'on a de multiples raisons de baisser les bras. L'association a eu l'occasion de déposer plainte déjà deux fois. La dernière plainte a été classée sans suite par le procureur de Rouillac au prétexte que la pollution était avérée mais pas suffisante au regard des textes de loi, ce qui juridiquement parlant ne veut rien dire. Donc en attaquant la société EDF, on sait qu'on s'attaque à un monstre. Et localement, pour parler encore plus localement, EDF est une manne financière de par ses installations pour nos communes, pour la communauté de communes Sumène-Artense et toutes les communautés de communes. On voit la société présente sur toutes les actions culturelles, les actions sportives. Tout le monde va chercher de l'argent chez EDF. Bon, est-ce que c'est leur boulot de donner de l'argent, de lâcher de l'argent comme ça, alors qu'à la base, ils sont juste vendeurs d'électricité? Mais c'est une manière pour eux de s'acheter la paix civile. Et du coup, notre difficulté étant de trouver des appuis politiques forts qu'on a eu passé à un moment donné, quand je parlais de Valéry Giscard d'Estaing, c'était la belle époque de l'association, parce que tout le monde était derrière. Mais aujourd'hui il est évident que de discuter avec certains maires est difficile, puisque l'apport financier de ce qu'on appelle la cotisation foncière des entreprises, donc que l'entreprise EDF reverse aux municipalités, est très importante dans ces petits budgets de nos petites communes du nord du Massif central. Et on ne peut pas les blâmer, hein, mais quand on dit qu'on attaque EDF, bah les gens ont tendance plutôt à reculer plutôt que de venir nous apporter un franc soutien, quoi.
Et alors, quels sont les besoins de l'association? Peut-être du besoin de soutien, justement, de personnalité ou autre chose?
On relance régulièrement nos députés, nos sénateurs, notre président de département. Je ne vais pas les citer, ils se connaissent tous. Pour qu'ils prennent part à nos côtés pour défendre ce lac. On sait que ça va être très difficile. Non, les grands besoins de l'association, c'est... On a une pétition qui est en ligne, qui a déjà dépassé 26 000 signatures. On a une cagnotte chez Eloasso parce qu'on a des besoins financiers importants. Quand on a la chance d'avoir Corinne Lepage qui veut bien s'occuper de notre dossier... Déjà, ça veut dire que le dossier est intéressant pour une grande avocate comme ça. L'inconvénient, c'est qu'elle a des factures qui nous laissent des fois un peu pantois. Et donc, on a des besoins financiers. On a un besoin moral et physique. On va faire donc samedi 1er août cette année, on va faire notre 22e journée du lac. Donc c'est une petite manifestation bien amicale qui se fait sur le bord du lac de la Crégue. Et on fait cette action pour récolter de l'argent, et on court les sollicitations financières auprès, et on les remercie, des commerçants, des artisans de la région qui sont, comme nous, inquiets de l'état de ce vieux lac glaciaire et qui aimeraient bien, comme nous, le voir restauré. Donc ils nous donnent des coups de main financiers. Nos besoins réellement financiers et humains.
C'est le moment de passer ta chanson. Tu as choisi La pêche à la ligne de Renaud. Serais-tu pêcheur?
Oui, je suis un grand pêcheur, pas que devant l'Éternel. Mais j'ai fait toute ma vie professionnelle quasiment dans la pêche de loisir, ce qu'on appelle la pêche de loisir. Je m'occupais des équipes de France de pêche à la mouche. J'ai été compétiteur pendant de nombreuses années. J'ai travaillé dans des magasins de détail. J'ai pêché dans moult et moult pays où j'ai eu la chance d'être invité. Et oui, la pêche est une passion dévorante, on va dire. Et un peu comme dans cette chanson de Renaud où il en arrive à perdre son épouse et son rêve étant d'emmener en fin de compte sa gamine à la pêche, c'est-à-dire que la pêche nous tient, non pas par les houilles comme on dit, mais pratiquement, et nous peut nous faire devenir totalement déraisonnables. Je suis totalement déraisonnable dès qu'on parle de pêche et je ne peux pas imaginer de partir en vacances sans des cannes à pêche, et je ne peux pas imaginer de vivre autrement qu'avec une femme qui pêche. J'ai eu beaucoup de chance de les rencontrer. je remercie mon épouse de me suivre dans ces galères, parce que qui dit pêche dit pas spécialement beau temps, les doigts de pied en éventail à regarder un bouchon. C'est plutôt de la pêche sportive aux quatre coins du monde, souvent en mode globe-trotteur, pour aller chercher les coins les plus reculés possibles et découvrir des espèces qu'on ne connaissait encore pour certaines pas. Donc c'est ce côté fabuleux que la pêche nous apporte. Je me souviens de mille anecdotes, mais on monte une canne à pêche ou on attaque de pêcher n'importe où dans le monde, systématiquement. On a des gamins ou des gens qui viennent nous voir et qui commencent à pêcher, à parler de pêche, alors qu'on se comprend qu'avec des gestes, et on est incapable. Moi, je parle pas l'Africain du Sud ou le Kirghize, mais tout de suite un contact se noue et c'est vrai que la pêche est un monde un peu à part. Ça pourrait être un peu le foot, la pêche est à part. Ça fait partie des premières activités, on suppose, que l'homme a fait sur Terre, l'humain, que ce soit la pêche, la chasse et la cueillette. Quoi. On est des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs et j'ai un gros atavisme de ce côté-là. Mais je chasse aussi et je ramasse des champignons aussi. Je suis un fondu de nature.
Ses rêves où je ne suis sûrement pas. Marlon Brando l'enlève, qu'est-ce que je foutrais là? Sur un cheval sauvage, ils s'en vont ridicules. Dehors y a un orage, ils sont mouillés, c'est nul. Moi j'affûte mes gaules pour partir à la pêche, musette sur l'épaule, saucisson, bière fraîche. Le soleil arrive, mon amour se réveille, le cœur à la dérive, les yeux pleins de sommeil. Téléphone à sa mère, qui est sa meilleure amie, paroles éphémères et tout petits soucis. J'aimerais bien entendre ce qu'elle dit de moi, c'est sûrement très tendre, enfin bon, j'entends pas. Je plante mon hameçon tout en haut d'une branche, je tire sur le nylon, me ruine une phalange. Le jour avance un peu, mon amour se maquille, un œil et puis les deux, c'est futile mais ça brille. Qui veut-elle séduire? Je suis même pas là, je me tue à lui dire qu'elle est mieux sans tout ça, que ses yeux sont plus clairs quand ils sont dans ma poche, et que vouloir trop plaire, c'est le plaisir des moches. Moi je sors une truite d'au moins 120 kilos, j'ai pitié trop petite, je la rejette à l'eau. Je reviens les mains vides, trop de vent, pas assez, l'eau était trop humide. Alors je rentre chez moi, triste comme un menhir, mais personne n'est là pour m'entendre mentir. Mon amour est parti, mais parti pour toujours. J'ai perdu mon amour, j'ai perdu ma vie. Si je peux, la gamine, sans mêler dans les branches, à la pêche, à la ligne. J'emmènerai dimanche, si je veux, la gamine, sans mêler dans les branches, à la pêche, à la ligne.
Retour dans le studio Otto Dassault & Co. avec Jérôme Gaillard, président de l'association de sauvegarde du lac de la Crégu. Le lac de la Crégu, plus grand lac glaciaire du Massif central, menacé d'envasement par les activités de la société EDF. Et là, on va un petit peu plus parler de toi, Jérôme, où tu vas parler du lac de manière un petit peu différente. J'aimerais que tu me racontes comme le lac est beau.
J'ai pas eu la chance, comme nos anciens, de connaître ce lac à l'époque où il était translucide. Mais il faut imaginer, pour nous autres Auvergnats, notre référence, c'est le lac Pavin, qui a à la base rien à voir, puisque c'est un lac volcanique qui a 6-7 000 ans à peu près d'existence. Il faut imaginer que le lac de la Crégue avait des eaux plus pures jusqu'en 1970 que celles du lac Pavin. C'est pourtant déjà exceptionnel quand on est au bord de ce Pavin. Donc ce lac de la Crégue, du fait qu'il n'avait pas d'apport d'eau extérieure, ou très peu, est resté, on va dire, stérile. C'est très peu de poissons, puisqu'il n'y avait rien à manger, puisqu'il n'y avait pas d'apport de nourriture par l'extérieur. Donc, les gens buvaient l'eau, le bétail, bien évidemment, aussi à l'époque. Et c'était le lieu de fête et de retrouvailles de tous les habitants de cette petite région du Nord-Cantal qu'on appelle l'Artense, où dès que les beaux jours arrivaient, les gens se retrouvaient bien évidemment au bord de l'eau. C'était le seul lac dans la région à l'époque.
On pouvait se baigner ?
Les gens buvaient l'eau, donc bien évidemment qu'on pouvait se baigner dedans. Il y avait été introduit, pour dire la qualité de l'eau, des ombles chevaliers dans les années, fin des années 1860-1870.
C'est un poisson très rare ?
C'est un salmonidé d'eau profonde et d'eau très oxygénée. On allait même aux pavins qui sont encore vivants, on allait même à la Côte d'Ivel d'en haut. Et donc on en avait à l'époque dans le lac de la Crégue qui s'était totalement implanté. Et donc ce qui prouvait la qualité exceptionnelle. Il était, je ne suis pas biologiste de formation, mais il avait une flore qui était typique des lacs glaciaires, qui a totalement disparu, remplacée par des roseaux et de la vase aujourd'hui. Donc c'était la pièce d'eau qui rassemblait tous les gens autour de ces berges, dès les beaux jours. C'était le lieu de fête, le lieu de retrouvailles. On a perdu ce plus grand lac glaciaire, un écrin, une pièce d'eau magique, magnifique, qui va nous faire défaut dans les années à venir, puisque, comme je le disais au début, 3 millions de mètres cubes d'eau potable, ou pratiquement potable, ça risque de nous manquer dans les prochaines décennies.
Est-ce que toi, tu as des très beaux souvenirs, genre, par exemple, deux souvenirs que tu as au bord du lac de la Crégue ?
Non, j'ai pas connu le lac quand il était encore magnifique. Et au jour d'aujourd'hui, je me balade au bord de ces berges. Les anecdotes vont être très tristes. J'ai vu des cyanobactéries et des éclosions de cyanobactéries en quantité industrielle. On voit ces roseaux et cette vase. On voit cette végétation qui n'a rien à faire ici. Quand on se promène sur les bordures, on voit des gardons, des perches soleil qui n'ont rien à faire ici. Enfin, le lac était classé en il y avait un statut d'eau close, donc un lac fermé, en première catégorie du fait des ombles chevaliers et des truites qu'il possédait à l'époque. Aujourd'hui, depuis 2009, il a été déclassé en deuxième catégorie, donc un lac principalement peuplé de poissons blancs et de carnassiers, type brochet, perche et cendre, qui ne sont pas venus naturellement avec leurs petites valises. Ils sont venus parce que la fédération de pêche s'est aperçue que la qualité de l'eau était tellement dégradée que les ombles et les truites de l'époque ne pouvaient plus vivre dedans. On s'aperçoit par les données que EDF veut bien nous céder, des analyses de la qualité de l'eau que EDF font, arrivé en plein été, en plein moment de la pleine chaleur, il ne reste aux poissons plus que les 3 premiers mètres ou les 4 premiers mètres sous la surface où il peut vivre, où il y a encore de l'oxygène. C'est-à-dire que les 21 mètres jusqu'au fond sont absolument dépourvus d'oxygène, zéro. Donc rien ne peut vivre dedans. On a un lac qui est aujourd'hui mort. Donc des belles anecdotes, j'en ai malheureusement pas à raconter. Moi, je me promène au bord d'un lac où je suis désespéré de voir son état sanitaire.
Alors, on va quand même passer à quelque chose de positif par rapport à l'eau.
Et plus joyeux.
De plus joyeux. Toi, tu es un homme aquatique, tu es un pêcheur, tu es un nageur aussi, je suppose.
Oui.
Et Gaspard a choisi pour toi un texte pour te faire vibrer. Ah, on l'écoute.
Allez.
Retrouvailles d'Ikwe et de l'eau. Bonjour l'eau, mon eau, comme un chant qui s'élève et perce l'air, comme un rire immense et cristallin. Bonjour l'eau que j'aime, reprise et recommencement. L'eau, entends-moi. Je t'entends. Il est couché comme à l'habitude, à plat ventre. Il a la bouche à fleur d'onde. Il murmure à l'oreille de l'eau. Il l'enchante de son bonheur qui lui scande la voix, qui lui met du miel aux mots, de la douceur dans tous les sons. L'eau, belle eau, j'ai tant de choses à te dire. Je suis ton eau, dit le Ru. Ton eau, et je t'aime bien. Et moi, je te dois tout. Il dégage un peu le visage qui se reflète dans l'onde immobile, tout à coup. Yves Thériault, le Ru d'Ikoué.
Jérôme, est-ce que tu veux réagir à ce texte ?
Ah, je me retrouve dans ce texte un petit peu. C'est l'amour qu'on peut porter à l'eau, mais c'est un amour qui est légitime. L'eau est source de vie, c'est pas Dieu ni quoi que ce soit, hein. C'est simplement que sans eau, on meurt. Donc, la moindre des choses, c'est qu'on s'y attache, qu'on essaye de la préserver. On a un certain âge, donc maintenant c'est peut-être moins important, mais depuis petit, j'ai été sensible au fait de voir toutes les dégradations qu'on apporte à cette flotte dont on devrait tous être amoureux, et c'est la première chose à préserver sur Terre. C'est l'eau est l'élément indispensable, et malheureusement on la massacre tous les jours. Moi je suis atterré, désespéré tous les jours. Je vois des pollutions diverses, variées, dues à Pierre, Paul, Jacques. L'eau est un transporteur fabuleux de toutes nos merdes. Et malheureusement, nos merdes, on en a de plus en plus. On est dans une société qui dépense beaucoup en choses un peu inutiles. Et malheureusement, toutes ces choses inutiles se retrouvent inévitablement, invariablement, à un moment donné, au contact de l'eau. Et c'est ce qu'on va laisser à nos gamins, quoi. Donc, moi, je suis amoureux de l'eau, mais je m'aperçois que quand je parle de l'eau, j'emmerde le monde. Et que y a pas, on lui a pas donné l'importance qu'elle a dans notre vie de tous les jours. Bien évidemment, on a des eaux en bouteille à disposition, mais maintenant on s'aperçoit qu'il y a peut-être 2, 3, 400 communes en France où les gens n'ont plus accès à l'eau potable. Je partirai. Mais le problème, c'est qu'on peut plus partir. La maison n'est plus vendable. Il y a plus d'eau. Donc, ça va entraîner beaucoup de malheurs dans ce foutu monde. Et je suis désespéré du peu d'intérêt qu'on apporte à cet élément liquide indispensable à notre vie. Je suis un amoureux de l'eau. Comme Kikoué dans ce texte, je la vénère. Ça pourrait être mon épouse, ça pourrait être ma femme, ça serait peut-être même plus fort que ma femme, tellement l'eau est importante. Et étant donné, j'en ai conscience personnellement. Malheureusement, personnellement, on ne fait pas grand-chose, quoi. Il nous faudrait beaucoup plus de soutien. Il y a du soutien, il y a des choses qui se font, heureusement, mais on part tellement loin et nos gouvernements successifs n'y apportent pas, à mon avis, l'importance nécessaire.
Voilà, donc finalement, le message quand même est politique, comme
tout
dans, voilà, dans de nombreux cas.
Oui, c'est inévitablement, on interpelle les politiques, nous, pour le lac, mais c'est pas que le lac, c'est la qualité de nos rivières, c'est la qualité de nos fleuves. Et une anecdote, ma mère a pleuré quand les PCB sont apparus dans le Rhône, enfin, ont été découverts dans le Rhône, on est lyonnais de base, et le Rhône a nourri, le Rhône et la Saône ont nourri les gens pendant les dernières guerres. Il n'y avait plus grand-chose à croûter, mais les rivières offraient toujours du poisson, quoi. Au jour d'aujourd'hui...
Rappelle-nous ce que c'est le PCB.
Oh, c'est des polychroates, je ne sais pas trop quoi, c'est une saloperie de pollution qui est cancérigène hautement, et qui fait qu'on ne peut plus consommer les poissons du Rhône et de la Saône. Donc on a enlevé des tonnes et des tonnes et des tonnes de vivres aux habitants des berges qui s'en sont nourris pendant des millénaires pourtant. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Les gens ne s'inquiètent pas, on va au supermarché, tout est facile.
Pour prendre contact avec Jérôme, utilisez le Facebook et l'Instagram Sauvegarde du lac de la Crégu et le site internet
www.lacdelacregu.fr.
Mais encore mieux, venez à la fête du lac le 1er août. Jérôme voulait aussi parler du collectif pour la Nars de Nouvial. C'est un groupe de personnes qui cherchent à être le plus large possible pour être fort et lutter contre les projets de carrière qui détruiraient cette zone humide. Mais on n'a pas eu le temps, on est désolé. Jérôme, merci beaucoup et à bientôt pour la journée du lac le 1er août.
Eh ben merci à toi Raphaël de m'avoir accueilli, c'est super. Merci de nous donner la parole.
Alors voilà, c'était la dernière émission d'Asso & Co. Moi, je remercie à mon tour Cathy, Philippe et Patricia de m'avoir accueilli à RBA et soutenu pendant ces 4 années d'exploration de la constellation des associations du territoire. J'en ai interviewé pas mal, mais il en reste encore plein. Donc si quelqu'un veut prendre la relève d'Asso & Co, ce sera avec grand plaisir. Et puis, merci à tous les bénévoles et salariés qui ont joué le jeu de l'interview. Qui sont venus mettre en avant leur trésor, celui dont ils et elles prennent soin, leur association. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission et de toutes les émissions de ces 4 dernières années sur rbafm.fr, rubrique émission, page Asso & Co.